donnez-moi un F, donnez-moi un T, donnez-moi un R, donnez-moi un F, T, R.
Forstin Radio.
Forstin Radio. La radio qui fauche votre journée.
En cette journée du 5 avril, nous avons l'occasion d'interviewer le député de notre circonscription, Monsieur Sébastien Jumel. Nous sommes Lilou Pasquier et Arvène L'Herbier et nous avons choisi de vous poser quelques questions concernant votre parcours scolaire et professionnel.
Avant que nous ne commencions, j'aimerais vous présenter de manière brève à nos auditeurs pour ceux et celles qui ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes membre du Parti communiste français depuis 2014 et étiez conseiller général de la Seine-Maritime de 2002 à 2015 et maire de Dieppe de 2008 à 2017. Avant de prendre le poste que vous occupez toujours, celui de député depuis 2017. Voici quelques questions que je vais vous poser par rapport au sujet de votre parcours scolaire et professionnel. Où avez-vous fait votre scolarité et quel a été votre parcours scolaire ?
Écoutez, moi j'ai grandi dans une cité populaire au Havre. Je suis né à Copriauville, dans un quartier du Havre, et j'ai fait mon début de scolarité à Gonfreville-l'Orcher, en zone d'éducation prioritaire. Ensuite au collège Gustave Courbet, de la même ville. Après j'ai été passer mon bac au lycée Jean Prévost à Montivilliers. Et après mon bac, c'était un bac B à l'époque, on dit ES maintenant, spécialité économique et philo. J'ai été faire des études de droit et de sciences politiques à Aix-en-Provence, où j'ai obtenu Bac plus 5. Voilà mon parcours scolaire. Mais ça m'a beaucoup marqué, mon parcours scolaire, parce que j'ai pris conscience très tôt, en fonction de son milieu social, en fonction de l'endroit où on naissait, on n'avait pas les mêmes chances. Et ça a été mon premier moteur d'engagement.
Donc, je suppose que vous avez de bons souvenirs de l'école.
Oui, j'ai des bons souvenirs. J'ai évidemment eu la chance d'avoir des bons profs. J'ai le souvenir d'un prof d'histoire géo qui m'a fait... aimer passionnément l'histoire, mais j'ai aussi le souvenir, c'est plus drôle et c'est plus anecdotique, mais en CM2, mon professeur de CM2, mon institut de CM2 avait dit, parce que j'étais un peu un élève atypique, pas très discipliné, élève ascolaire d'un cycle court. Et quand je suis devenu député, au lendemain de mon élection, un monsieur venait me voir, et donc je suis sorti de mon bureau. Et c'était mon instituteur de CM2 qui, 30 ans après, venait s'excuser d'avoir pas cru en moi à l'école, à l'époque, parce que j'étais pas complètement dans le moule et il venait s'excuser auprès de moi.
Est-ce que vous pensez que l'école d'aujourd'hui est mieux que celle que vous avez connue ou pensez-vous que c'est plus compliqué pour les jeunes ?
J'aime pas trop dire c'était mieux avant parce que ça fait ringard et ça fait vieux con. Je pense quand même qu'on a abîmé l'ascenseur social de la République. C'est-à-dire qu'avant, pour les enfants de conditions modestes, l'école représentait un vrai outil pour sortir de son milieu, pour parler plus simplement, pour faire mieux que ses parents ou mieux que ses grands-parents, en tout cas pour avoir des métiers moins pénibles. J'ai l'impression que réforme après réforme, on a abîmé l'école, faute de moyens, faute de volonté politique, et qu'aujourd'hui, il vaut mieux être riche dans un beau quartier de Paris que modeste habitant dans un quartier de Dieppe pour réussir à l'école, et ça c'est évidemment inacceptable.
Si vous pouviez modifier une chose à l'école d'aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait et pourquoi ?
Beaucoup de choses. D'abord, je renforcerais le nombre d'enseignants pour qu'il y ait moins d'élèves par classe, parce que quand on a des effectifs à dimension humaine, c'est plus facile d'apprendre. La relation avec l'enseignant est plus simple. On peut mettre en place ce qu'on appelle une pédagogie différenciée, c'est-à-dire permettre à l'enseignant d'adapter ses cours en fonction des élèves, en fonction de leurs intérêts, en fonction de leurs difficultés. Donc, d'abord, renforcer les moyens humains à l'école. Deux, mettre le paquet sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Moi, j'ai fait un rapport parlementaire là-dessus et forcé de constater que ça reste compliqué pour les enfants atteints de handicap, et les handicaps peuvent être multiples, on peut être 10, on peut avoir un handicap moteur, on peut être autiste. Et l'accompagnement des enfants en situation de handicap, c'est évidemment déterminant. Ça veut dire lutter pour qu'il y ait un statut pour les AESH, accélérer les instructions des dossiers à la DPH, bref, faciliter la vie des enfants en situation de handicap. Et puis, moi, je pense que si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je ferais en sorte que le sport à l'école, la culture à l'école, le chant à l'école, la musique à l'école puissent être aussi des outils d'épanouissement pour les enfants de manière plus forte qu'aujourd'hui.
Parce que ça permet un relâchement, hormis du tronc commun, parce que français, maths, histoire tous les jours, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup à supporter.
Ouais, puis ça permet surtout de démontrer que moi, je crois qu'il y a de l'intelligence chez tous les enfants, chez tous les jeunes, et que la question, c'est comment on met en place une offre pédagogique qui permet aux jeunes de prendre confiance en lui, de se dire qu'il vaut quelque chose. Et l'école, elle doit pas seulement préparer à un métier pour demain, même si c'est important, elle doit aussi construire le citoyen de demain. Et c'est construire le citoyen de demain, c'est ne négliger aucune des matières.
Oui, en plus, ça peut permettre de nouvelles compétences, le travail d'équipe, et puis développer des réflexes qu'on ne peut pas avoir dans les matières littéraires, mathématiques et tout ça.
Et puis après, je ferai une réforme pour que l'orientation soit choisie et pas que l'orientation soit subie, parce qu'on voit bien à quel point, mais je crois qu'il y a des questions là-dessus sur Parcoursup, que malheureusement, trop souvent, des jeunes se retrouvent confrontés à une orientation qu'ils n'ont pas choisie, et donc la motivation n'est pas au rendez-vous.
Est-ce que, dès votre enfance, vous avez toujours souhaité faire de la politique, et sinon, quand cette idée vous est-elle venue ?
Assez tôt, j'ai été très révolté par les injustices. Je ne comprenais pas que l'égalité des chances soit pas au rendez-vous. Et j'ai, moi, connu des jeunes qui étaient à l'école avec moi, qui étaient aussi intelligents que moi, voire plus intelligents que moi. Et je mesurais qu'ils n'auraient pas la même vie que moi parce que leurs parents étaient moins présents, parce qu'ils n'étaient pas nés sous la bonne étoile, comme dit une chanson de rap que j'aime beaucoup, d'IAM. Et donc ça m'a révolté, ça a été le début de mon engagement. Et après, moi, je me suis engagé pour la première fois quand j'étais élève de seconde. Il y avait une réforme qui s'appelait la réforme de Vaquet. Ça a été mon premier engagement de lycéen. J'étais délégué de classe, délégué de lycée. Et progressivement, je me suis engagé d'abord à travers le syndicalisme lycéen, après le syndicalisme étudiant, et c'est ensuite que j'ai fait le choix d'adhérer à mon parti en 1989, quand j'avais 18 ans.
Et si vous n'avez pas choisi de faire de la politique, vers quoi vous seriez-vous tourné ?
Oh, j'ai rêvé de faire plein de métiers différents, mais quand j'étais môme, je voulais être paléontologue. Après, j'ai rêvé d'être journaliste. Après, quand j'ai fait mes études de droit, j'aurais bien voulu être avocat, et puis la vie a tranché différemment. Je suis devenu maire de Dieppe, ce qui était pas mal et qui c'est un mandat qui m'a beaucoup plu. Le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats.
Parce qu'en plus, vous pouvez être au contact des habitants de la ville, vous pouvez développer des nouveaux projets pour améliorer.
C'est ça, ouais. J'aime les gens. J'oublie pas d'où je viens et j'aime les gens. Et puis quand on est maire, on peut faire des actions très concrètes, améliorer la vie d'un quartier, la vie associative, la vie sportive, mener des projets culturels, créer des crèches, prendre soin des aînés dans les résidences pour personnes âgées. Bref, on peut se sentir profondément utile au service des habitants et ça m'a beaucoup plu lorsque j'étais maire.
Pourquoi faut-il, selon vous, s'engager en politique ?
Pour moi, si on ne s'engage pas, si on ne s'intéresse pas à la politique se fera sans nous. Et c'est souvent ce que je dis aux jeunes. Je peux comprendre qu'il y ait quelquefois de la désespérance, une critique vis-à-vis des politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, qui ont déçu, et notamment à gauche, quelquefois, la déception a été au rendez-vous. Mais la meilleure manière de ne pas être déçu, c'est de s'engager soi-même.
En plus, on voit que la politique commence à disparaître des priorités des Français, puisqu'on voit 60% d'abstention aux élections présidentielles.
Je crois qu'il y a une vraie crise démocratique, un vrai essoufflement démocratique. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne s'intéressent pas à la politique. La politique, c'est les affaires de la cité. La politique, c'est aujourd'hui comment j'accède à l'école, comment je me soigne, comment j'ai un travail qui me plaît, qui est correctement rémunéré, l'accès au logement. Et tout ça, ça implique des réponses politiques. Comment je prends soin de la planète? Comment je vis dans un lieu à dimension humaine où chacun trouve sa place? Tout ça, ça implique des réponses politiques. Et donc, au bout du compte, tout est politique. Et donc, s'intéresser à ça, c'est s'intéresser à la vie tout court.
Là, je vais vous poser d'abord une première question qui revient souvent, parce qu'on en parle actuellement. Que pensez-vous de l'uniforme?
Je suis pas chaud. Je pense qu'il y a des inégalités à l'école qui peuvent transparaître sur les vêtements et que ça peut être source d'inégalités, d'humiliation, de discrimination. Je pense que prétendre régler les inégalités ou même les questions de laïcité, rien qu'avec l'uniforme, c'est un leurre. Et je suis pas convaincu de ça. Puis la jeunesse, c'est aussi l'expression de sa singularité, de sa personnalité. Je suis pas sûr que ce soit bien qu'on lisse la jeunesse, qu'on uniformise la jeunesse et qu'on uniformise avec un uniforme la jeunesse, ça ne me paraît pas opportun.
Que pensez-vous de la réforme du bac ?
Bon, c'est catastrophique. Enfin, les réformes qui se suivent et se ressemblent sont catastrophiques parce que moi, je vois bien, j'ai des enfants et donc j'ai vu les évolutions des différentes réformes du bac, d'APB, ensuite de Parcoursup, notamment la réforme du bac. On prétend avec ça avoir mis fin à la discrimination entre les terminales scientifiques, les terminales littéraires, les terminales. Mais au bout du compte, les enfants qui ont les codes, les jeunes qui ont les codes, qui ont les parents derrière, choisissent les bonnes options. Et les autres sont très en peine pour choisir la bonne option. Et on demande de plus en plus tôt d'ailleurs aux jeunes, dès la seconde, d'une certaine manière, faudrait savoir quel métier on va exercer plus tard. Alors que en seconde, on n'a pas forcément la maturité, envie de s'enfermer dans un métier, mais au contraire, on est envie de découvrir, de s'enrichir, de réfléchir encore à ce qu'on peut faire plus tard. Donc, très inquiet, d'autant que ça ne s'est pas accompagné de moyens d'accompagnement suffisants. Quant à Parcoursup, c'est terrible parce que c'est une machine à broyer l'espérance de la jeunesse. Les algorithmes sont profondément injustes et inégalitaires. C'est stressant pour les jeunes. Toute l'année du bac, ils remplissent des vœux sur Parcoursup sans savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Et moi, ce que je constate, c'est que là encore, quand ça va bien, quand t'es très bon élève, quand t'as l'accompagnement, quand t'as le réseau social, quand t'as les moyens, tu trouves des solutions. Pour le reste, c'est plus compliqué.
Ouais, c'est ça, parce que étant en seconde, nous avons déjà dû choisir 4 spécialités pour regarder si on est bon, mais le problème, c'est qu'il y a certaines compilations de spécialités qui ne pourront jamais correspondre avec une profession et on n'est peut-être pas bon dans ces disciplines-là ou il y a peut-être une grosse source de travail, on n'a pas des bonnes moyennes, on n'est pas trop investi.
Puis on peut manquer d'intérêt pour les maths en seconde et puis se révéler intéressé par les mathématiques un peu plus tard. Idem sur les langues ou sur l'histoire ou sur les SVT. Des fois, la vie, elle n'est pas linéaire et donc je trouve qu'on enferme très rapidement dans des cases, dans des pré-choix, les jeunes, ça leur brise des perspectives de vie, je trouve.
C'est ça, parce que si on se trompe, on doit revenir en seconde pour refaire sa scolarité, éventuellement choisir les bonnes spécialités, mais si on continue comme ça, on n'a jamais terminé.
Il y a des passerelles possibles, mais moi j'ai une fille qui est en seconde et je sais que c'est stressant de choisir pour elle ses spécialités, elle n'est pas sûre de son choix.
On doit en choisir 3 et en terminale, on doit en enlever une et en sélectionner 2.
Et puis, est-ce qu'on choisit ses spécialités en fonction des notes qu'on a, pour être sûr d'avoir une bonne moyenne au maths, au bac? Est-ce qu'on choisit ses spécialités en fonction du métier qu'on a envie d'exercer au moment où on doit faire le choix? Est-ce qu'on choisit ses spécialités pour avoir le meilleur parcours dans l'enseignement supérieur? Voilà, ça peut y avoir plusieurs contradictions et plusieurs injonctions contradictoires, et c'est ça qui complique la donne, je trouve.
Quel est le problème majeur dans les études supérieures pour vous? Qu'aimeriez-vous changer?
D'abord, il y a le coût des études. Moi, je vois qu'il y a des jeunes qui renoncent à aller faire des études supérieures parce que leurs parents n'ont pas les moyens d'assumer ces études. Coût de logement, c'est très difficile de trouver un logement quand on est étudiant dans une ville universitaire. Les coûts du transport et puis la vie qui accompagne la vie étudiante. Donc, il y aurait besoin de créer un vrai statut étudiant avec une forme d'allocation autonomie jeunesse qui permettrait d'accompagner ça. Et puis, je pense qu'il faut aussi à nouveau réfléchir à démocratiser l'accès aux études supérieures, mettre en place des accompagnements humains. Le plus dur quand on se retrouve en enseignement supérieur, c'est de devenir anonyme, d'être dans des amphis où il y a 1000 personnes et qu'on peut être noyé si on n'a pas, là encore, les bases suffisamment solides, et puis de faire en sorte là aussi qu'il y ait dans l'orientation des jeunes au moment des choix de parcours d'enseignement supérieur un accompagnement plus solide, plus sérieux, plus dans la durée. Voilà un peu ce que ça m'inspire.
Vu les conditions de la scolarité et des élèves aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez quand même retourner à l'école?
Moi, des fois, ça me manque. Je trouve qu'on a besoin d'apprendre toute sa vie. Donc, moi, je n'ai évidemment pas le temps en tant que député, mais des fois, j'aimerais bien me retrouver sur les bancs de la fac, les bancs de l'école, et d'apprendre sans forcément avoir une vocation, sans être stressé par les notes et par l'examen, mais d'apprendre pour le plaisir d'apprendre. Des fois, ça pourrait me manquer. Ouais.
Et parce que c'est ce qu'on n'a pas aussi évoqué, mais il y a aussi une question de pression scolaire chez nos étudiants.
Je suis très inquiet. Vous avez vu, comme moi, il y a beaucoup d'études qui sortent sur les jeunes qui ont des troubles psychiques, qui dépriment, qui perdent le sens, où la pression est trop grande. Et je pense qu'une société avec sa jeunesse malmenée, c'est une société qui va mal. Et donc, il y a urgence, c'est impérieux de prendre soin de sa jeunesse. Et moi, je vois que à Dieppe, par exemple, on a créé une maison des adolescents pour être à l'écoute des maux que rencontrent les jeunes. Et malheureusement, cette maison des adolescents ne désemplit pas tellement. Il y a de malaise et de mal-être et de difficultés de tout ordre. Les addictions aux jeux, les addictions tout court, le doute sur la perte de confiance, les phobies scolaires, la question du harcèlement. Récemment, à l'Assemblée nationale, j'ai fait venir des jeunes qui ont joué une pièce de théâtre sur le harcèlement. Et parmi les jeunes de la mission locale, 7 sur 10 disaient avoir été victimes de harcèlement. Donc ça veut dire que sur ces sujets-là aussi, il y a encore du pain sur la planche.
J'ai encore une dernière question concernant ce sujet-là. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos jeunes auditeurs ?
Croyez en vous, dites-vous que l'avenir vous appartient, n'écoutez pas ceux qui vous montrent du doigt ou veulent vous enfermer dans une case. Moi, je pense que l'avenir, c'est banal de dire ça, mais j'y crois vraiment que l'avenir sera ce que nous en ferons et que dans cet avenir, les jeunes doivent prendre leur place, doivent trouver leur place, doivent avoir leur mot à dire. Doivent pouvoir y compris bousculer le monde des adultes, qu'ils soient plus à l'écoute.
Juste avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez nous proposer une musique afin de l'insérer dans notre pause musicale lors du 5 avril ? Et si possible, pourquoi ce choix ?
Voilà, j'aime plein de choses. Ah tiens, si, Grand Corps Malade, l'éducation nationale. Moi, j'adore la voix de Grand Corps Malade, j'adore l'humanité qu'il dégage, et je trouve que cette chanson sur l'éducation nationale résume bien ce que je pense pour réparer l'école, donc c'est un bon résumé de notre interview.
Donnez-moi un F, donnez-moi un T, donnez-moi un R, donnez-moi un FTR.
Forstin Radio.
Forstin Radio. La radio qui fauche votre journée.